l'environnement physique et spirituel ou social, on peut dire. Alors, en réfléchissant là-dessus, on peut discerner qu'il y a quand même trois grosses étapes dans l'attitude ou la compréhension que les êtres humains ont eu au travers de l'histoire envers l'environnement physique, la nature, on peut dire. Shoghi Effendi nous parle des étapes du développement social, la famille, la tribu, la ville-État, la nation, et maintenant, en fait, on approche enfin l'unité des nations, l'unité mondiale. Et on peut voir que chacune de ces étapes a véhiculé, ou en tout cas a été liée avec une certaine attitude envers l'environnement. Alors d'abord, au niveau de la tribu, pendant des milliers d'années, pendant que la société humaine était organisée seulement à base des tribus, l'attitude, c'était, enfin, ça semble être assez, enfin, toutes les études nous laissent croire, y compris les études des sociétés qui sont encore organisées sur la base tribale. Mais je ne vous assomme pas avec toutes ces recherches, etc. Mais en disant, tout ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas, je ne tire pas ça de l'air, n'est-ce pas? En fait, c'est basé quand même sur des recherches. Que l'homme se voyait comme faisant partie de la nature. Et bien sûr, l'homme était capable de s'organiser socialement de façon spécifique qui dépassait l'organisation sociale des animaux. Mais l'organisation sociale était pour s'accommoder à la nature. Donc la division du travail, l'homme qui va à la chasse, la femme qui garde les enfants et tout ça, la division du travail, c'était pour s'accommoder à la réalité. C'est la femme qui accouche, on ne peut pas lui demander de nourrir les enfants et en même temps faire la chasse. On ne peut pas demander, mais les hommes ne peuvent pas de toute façon nourrir les enfants, disons au moins du sein. Et les femmes donc et les enfants doivent être protégés. Alors qui va les protéger autre que les hommes? Donc les hommes s'entraînent à la guerre, à la défense et à la chasse, etc. Donc la division de travail qui est presque dictée par l'environnement, par la nature de l'environnement. Et l'organisation sociale ne va pas au-delà de ça. C'est-à-dire, une fois qu'on s'accommode à la nature, on ne songe plus à autre chose. C'est pris pour acquis que l'homme fait partie de la nature. Par exemple, l'attitude envers la mort. Bon, je peux généraliser. La vision tribale du monde, c'est cyclique. Parce que tout dans la nature est cyclique, n'est-ce pas, en fait. Et surtout, la cycle de vie et de mort, n'est-ce pas. Chaque chose naît, et chaque chose vit pendant un certain temps, et chaque chose meurt. Donc, l'homme se considérait lui-même comme faisant partie de la nature. Donc, puisque toute chose meurt, lui, il va mourir. Tout indique que les gens, pour eux, c'était complètement naturel, bien sûr. Tout le monde va mourir parce que c'est la nature, nous faisons partie de la nature, en fait. Donc, l'idée même que l'homme était une espèce à part n'était pas vraiment très présent. Enfin, nous connaissons, par exemple, dans la littérature autochtone, leur attitude envers, ils parlent de nos frères, les loups, nos frères, les ours, etc. C'est-à-dire, ils se considéraient comme en faisant un avec les animaux, en fait. Pour eux, la distinction entre les animaux et les êtres humains, ce n'était pas aussi tranché que chez nous, n'est-ce pas? Ça, c'est juste une indication de la sorte de choses dont je parle. Donc, première étape qui a duré pendant assez longtemps et qui est reflétée dans les sociétés tribales, c'est l'homme faisant partie de la nature, Et l'organisation sociale, parce qu'on veut parler de l'environnement physique et social, ok. Et l'environnement social, on s'organise pour s'accommoder à la réalité de la nature, pas pour la changer. L'idée de changer la nature ou de s'imposer sur la nature ne semble jamais avoir été une partie de la vision du monde des sociétés tribales. La deuxième étape est associée avec la naissance des villes-États. Alors, je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais il y a un article dans le livre des sagesses, là, le gros livre bleu, dont vous êtes au courant. Il y a un très intéressant article, justement, sur les villes-États et tout ça, et la portée spirituelle ou l'influence spirituelle de la formation des villes-États. Enfin, l'incidence sur la vision que l'homme a de lui-même et de la nature. Et grosso modo, ça se résume à la chose suivante. D'abord, les villes-États, c'est des agglomérations qui n'ont pas lieu dans la nature. C'est-à-dire, même les animaux, il y a des troupeaux et tout ça. Donc, la société tribale était quand même dans la moule de la nature, parce que même les animaux ont des troupeaux, etc. Bon. Mais une agglomération telle un ville-État, n'est-ce pas, qui regroupe peut-être des centaines de milliers ou des dizaines de milliers, peu importe, enfin, d'hommes dans une petite circonscription qui est coupée de la nature, n'est-ce pas? Donc il faut amener la nature en ville et tout ça. C'est-à-dire, la ville n'est pas autosuffisante dans la nature, n'est-ce pas? C'est une chose artificielle, c'est une chose construite, imposée sur la nature. Alors donc, vous devinez tout de suite, enfin, la deuxième vision, c'est que l'homme domine la nature. L'homme s'impose sur la nature, il impose ses structures sur la nature. Il n'est pas contraint simplement à s'accommoder, il doit transiger avec la nature, il ne peut pas oublier la nature, mais il s'impose sur la nature, il impose ses structures sur la nature. Et à ce moment-là, c'est les premières fois qu'on trouve, selon ce que j'ai lu, la notion d'immortalité de l'âme. Et donc les anthropologues et tout ça, ils voient ça un peu de la manière suivante. Qu'est-ce qui fait l'organisation sociale, par exemple, dans une ville-État? Quelle est la base des relations humaines dans une agglomération artificielle? C'est l'amitié, c'est l'amour. Parce que au niveau tribal, c'est la nécessité, c'est des rôles, n'est-ce pas, la division du travail, c'est des rôles qui sont dictés par la nature. Tandis que dans la ville-État, c'est l'association libre. Vous pouvez avoir des amis qui vous voulez, n'est-ce pas? Vous pouvez former des associations, enfin, des gens qui travaillent ensemble, les gens qui sont des intellectuels, qui sont des athlètes, ou n'importe quoi. Vous avez toutes sortes d'associations libres basées sur le choix de l'individu, qui n'est pas dicté par la nature. C'est dicté par le goût de l'individu, les gens avec qui vous vous sentez bien, n'est-ce pas? Alors, à ce moment-là, ces relations d'amitié sont non naturelles. Dans le sens précis que ces relations ne sont pas soumises directement aux contraintes de la nature. Ces relations se forment indépendamment des contraintes de la nature, selon le goût de l'homme. Ce sont des relations sociales, mais pas naturelles dans ce sens précis. Je ne veux pas dire antinaturelles non plus, mais en quelque sorte, naturel, indépendant de la nature. Et selon ce que j'ai lu encore une fois, c'est une idée que j'avais jamais pensée, mais qui fait du bon sens. En tout cas, il semble que c'est à ce moment-là qu'on commence à voir dans les écrits des hommes la notion d'immortalité. Et on sait par exemple que dans les villes-états de la Grèce, l'immortalité, l'enseignement de l'immortalité était la pierre angulaire de l'enseignement de Socrate, par exemple. Enfin, tout Socrate, Platon, c'est basé carrément là-dessus, l'immortalité de l'âme. Et donc, c'est seulement chez les Grecs qu'on en voit cette notion de l'immortalité de l'âme. Il y a une certaine notion d'immortalité qu'on retrouve chez les tribus. C'est la notion des ancêtres, que quand on meurt, on va rejoindre nos ancêtres et tout ça. C'est une sorte d'immortalité, mais en fait, c'est pas vraiment une conception philosophique de l'immortalité, c'est-à-dire que l'âme dure à jamais, c'est-à-dire c'est une autre étape, on va rejoindre nos ancêtres, parce que on va aller où nos ancêtres sont allés, c'est-à-dire on vient de l'inconnu, on va vers l'inconnu, alors on va vers le même inconnu que tous les autres, n'est-ce pas? Donc on va les rejoindre, n'est-ce pas, dans cet inconnu. C'est quand même, c'est pas la notion d'immortalité comme telle, c'est la notion de notre étape, ben ça va être ce que ça va être, n'est-ce pas? Tandis que la notion vraiment de l'immortalité de l'âme et la notion de vivre cette vie terrestre fonction d'une conception de l'immortalité de l'âme paraît pour la première fois seulement à l'étape des villes-états, et puis évidemment c'est reflété dans la philosophie grecque par excellence. Mais les villes-états existaient pendant des millénaires avant, en Babylone, n'est-ce pas, en Égypte et tout ça. Ça existait bien avant les Grecs. Enfin, les Grecs, la Grèce est peut-être le summum ou le point culminant de l'organisation de la ville-état, n'est-ce pas? C'est l'ultime organisation des villes-états avant la naissance de la nation. Alors, donc, bien sûr, la vie physique est temporaire. Mais l'amour peut durer éternellement, n'est-ce pas? C'est-à-dire, pourquoi pas? C'est-à-dire, la mort, du point de vue de l'amitié et de l'amour, la mort n'est plus une chose naturelle. Ça paraît comme une imposition injuste. Parce que si on s'aime pour l'éternité, pourquoi est-ce que cet amour qui est en quelque sorte métaphysique, l'amour, voilà le raisonnement, je cherche des mots, mais en fait, l'amour est évidemment métaphysique. Ce n'est pas une chose physique, l'amour. C'est une chose métaphysique. C'est une chose spirituelle. Et donc, comme chose spirituelle, c'est immortel, en fait. Ça transcende les limitations de la physique. Alors, ce n'est pas normal que les relations humaines soient basées sur une chose métaphysique, telle l'amour, et que cet amour qui est métaphysique soit sujet, soit confiné aux règles qui s'appliquent seulement à des choses physiques, comme le cycle de vie et de mort, n'est-ce pas? Et donc, la mort commence à paraître comme une chose non naturelle. Et il y a, on sort donc de cette mentalité cyclique des tribus, que tout c'est un va-et-vient, n'est-ce pas? La notion de progrès n'existe pas chez les tribus, parce que quel progrès vous voulez? Le seul progrès, c'est de quitter la terre ou les conditions naturelles, ce qui entraîne la mort immédiatement, n'est-ce pas, en fait? Donc, le progrès, ça n'existe pas, c'est simplement une vie cyclique. Tandis que vous voyez pour la première fois dans les villes-états la notion du progrès de l'âme. La notion que que la spiritualité chez l'homme, c'est pas simplement de se soumettre patiemment à la nature, mais de faire un progrès qui est éternel. Et donc, on voit ça, comme j'ai dit, par excellence, chez Socrate, qui carrément dit, en fait, que, par exemple, entre la survie physique et la survie morale, on choisit toujours, l'homme sage choisit toujours la survie morale, parce que ça, c'est pour l'éternité. Autrement dit, si quelqu'un vous dit, bah, je vais vous tuer, si vous ne faites pas tel ou tel acte immoral, n'est-ce pas? Alors, l'homme sage, dit Socrate, va immédiatement choisir la mort physique, parce que de toute façon, tout le monde va mourir physiquement. Mais dès que j'accomplis un acte que je considère immoral, je ne suis plus la même personne moralement, et donc je vais dans l'autre monde, mon âme éternelle va subir les conséquences de cet acte immoral que j'ai fait, n'est-ce pas? Alors là, on voit vraiment la notion d'immortalité et le domaine métaphysique qui transcende la physique. Alors, ensuite, après Mahomet, après la nation, après la naissance de la notion de nation, vraiment de peuple et de nation, d'une collectivité qui regroupe beaucoup de villes, enfin, la notion de nation, essentiellement, c'est que ça coupe au travers les liens de sang et même des langues. Par exemple, le fait que le Coran était en arabe et que tout le monde devait apprendre l'arabe, c'est quand même, ça permettait que l'islam se répande chez une diversité linguistique, n'est-ce pas? Parce que même si les gens parlaient différentes langues, ils apprenaient l'arabe pour comprendre le Coran, qui était la langue de la révélation. Alors donc, d'un certain point de vue, ça peut être comme une imposition, mais d'un autre point de vue, c'est une flexibilité, parce que ça permet les gens, c'est une sorte, un petit reflet, si vous voulez, un petit avant-goût de la notion Baha'i d'une langue auxiliaire internationale, n'est-ce pas? Enfin, n'est-ce pas? Parce que ça permet les gens de garder leur langue de tous les jours, tout en apprenant l'arabe pour pouvoir chanter le Coran et avoir accès au Coran. Et bien sûr, des différentes ethnies, enfin, c'était la nation, donc, telle que créée par l'islam, c'était multi-ethnique, multilinguistique, enfin, etc. Donc, la base de regroupement de la nation, c'était une nouvelle base sociale qui était basée sur la capacité de l'individu à s'identifier à une entité abstraite, qui est, par exemple, l'islam, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le type au sud de l'Espagne, le type au Moyen-Orient, le type en Inde, ils se disaient tous musulmans, n'est-ce pas? Et s'ils se rencontraient pour la première fois, ils se considèrent comme des frères musulmans. Ils disent, ah, vous êtes musulmans aussi, ben, on sait ce que ça veut dire être musulman, on croit au Mohammed, on fait des prières 5 fois par jour et tout ça. Alors, donc, il a déjà un acquis entre nous, juste le fait qu'on sait qu'on est musulmans. On a beau de parler des langues différentes ou avoir des couleurs de peau différentes ou tout ce que vous voulez, ou même des cultures, des habitudes culturelles différentes, le fait qu'on est tous les deux musulmans, c'est ce qui compte le plus, n'est-ce pas? Donc c'est cette capacité de l'individu de s'identifier à une unité abstraite, parce que même la ville-État, ce n'était pas une unité abstraite. Vous pouvez voir la ville est quand même une chose concrète qui est là, n'est-ce pas? Les bâtiments et tout ça, c'est confiné, c'est délimité, mais il n'y a pas de limite visible de l'islam, par exemple, ou d'une religion, n'est-ce pas? C'est une communauté qui n'a pas de limite visible, c'est complètement abstrait. Alors donc, les historiens disent que ça c'est l'apport de la religion, et surtout de l'islam, c'est d'amener les gens, ou éveiller chez les gens cette capacité l'attente de s'identifier à une unité abstraite. Okay. Et donc, cette plus grande solidarité a amené, a abouti à la science moderne, enfin. Je compte la modernité à partir, mettons, de 1500, ou peut-être même, on peut remonter même jusqu'à 1300. Mais enfin, Galilée, Descartes et tout ça, bon. Et là, on voit surgir une troisième notion, une troisième vision de la relation entre l'homme et la nature, et c'est la notion, évidemment, que l'homme domine la nature, que l'homme est supérieur à la nature. et qu'il a le droit de dominer la nature. La nature doit être asservie. Et ça s'est reflété, évidemment, les féministes adorent citer la parole de Bacon, qui avait dit, enfin, qui était un des premiers scientifiques de l'époque, enfin, moderne, qui avait dit que, il dit, la nature ne rend pas ses secrets facilement, il faut torturer les secrets de la nature. Alors ça, c'est une image que les féministes modernes, beaucoup pour dire que la science, c'est la patriarchie et tout ça. Bon, on peut en parler plus tard. Il a un peu de vrai dedans, ça, sans doute, n'est-ce pas? Mais que ça montre une sorte de... Donc ça montre une sorte d'irresponsabilité vis-à-vis de la nature. C'est-à-dire la nature est banalisée. C'est une chose qui est nettement inférieure à nous. Et non seulement nous pouvons imposer nos structures, comme dans le cas des villes-États, mais nous pouvons asservir la nature. Cette notion d'asservir la nature ne faisait pas partie, par exemple, de la philosophie grecque et tout ça. Cette notion de qu'on on subjugue la nature, on la domine, etc. Ça, c'est vraiment depuis 500 ans à peu près. Enfin, ça, c'est une notion beaucoup plus récente. Et évidemment, la nature avait beaucoup de tours à jouer, n'est-ce pas, à l'homme dans son orgueil. Enfin, la peste, par exemple, qui a enrayé un quart de la population d'Europe et qui aurait pu enrayer toute la population d'Europe, n'est-ce pas, en fait. Les tremblements de terre, les volcans, enfin, toutes les catastrophes naturelles, qui venait régulièrement rappeler à l'homme qu'il ne dominait pas la nature, qu'il n'était pas, il ne subjuguait pas la nature, vraiment. Mais, comme Abdu'l-Bahá lui-même dit, l'homme, par son intelligence, réussit à faire plier la nature à sa volonté. Il dit, par exemple, il emprisonne le feu dans un globe, enfin l'électricité, n'est-ce pas, c'est-à-dire... Bref, l'homme commence à pouvoir manipuler la nature. Manipuler la nature et donc créer un environnement physique que nous voyons aujourd'hui, où on a tout, par la technique basée sur la science, nous avons toute cette facilité qui nous coupe, évidemment, qui nous coupe beaucoup de la nature, en fait. C'est-à-dire, nous mangeons la nourriture que nous n'avons pas fait croître, nous habillons dans les vêtements qu'on n'a pas tissés nous-mêmes. Enfin, donc l'économie moderne, en fait, permet l'homme de vivre dans l'illusion qui ne dépend même plus de la nature, n'est-ce pas? Alors, j'ai dit que ce sont des trois attitudes, on peut dire, qu'on voit dans l'histoire. La foi Baha'i mène une quatrième, une nouvelle attitude. Et cette attitude est, je vais la nommer et puis je vais discuter un peu la relation entre cette façon de voir et d'autres façons, comme les féministes ou les écologistes ou les autres. Et le point de vue Baha'i, grosso modo, c'est le suivant. Bien sûr, l'homme est supérieur à la nature. L'homme n'est pas simplement une partie de la nature. Okay? Par son intelligence, par sa côté métaphysique, il n'est pas simplement un animal. Donc, ça serait stupide pour l'homme simplement de rester complètement à vivre éternellement au niveau tribal, où il s'accommode à la nature sans utiliser sa science pour créer un environnement social sophistiqué comme nous avons aujourd'hui. L'homme est supérieur à la nature. Mais, ici, on entre dans la notion de supériorité. Dans le passé, et dans le cadre de l'islam, et dans le cadre de l'attitude qu'on héritait de l'histoire, la supériorité était représentée par un pouvoir, un plus grand pouvoir. C'est-à-dire, l'homme montrait sa supériorité sur la nature en la dominant. Comme, par exemple, je m'excuse de cet exemple, mais on peut vous dire tout ça, comme l'homme démontrait sa supposée supériorité sur la femme en la dominant, n'est-ce pas? Ou un peuple rendait en esclavage un autre peuple pour montrer sa supériorité sur ce peuple, n'est-ce pas? Le racisme où les blancs démontrent leur supposée supériorité sur les noirs en les subjuguant, en les amenant comme esclaves. Enfin, je m'excuse, mais c'est l'histoire, c'est ce qui est arrivé. Donc, ça fait l'égalité, supériorité égale pouvoir. Okay. Alors, donc, Baha'u'llah Abdu'l-Baha vient et il modifie ça en disant supériorité égale compassion. C'est pas le pouvoir, le plus grand pouvoir qui nous rend supérieurs, c'est la disposition de ce pouvoir. Bien sûr, sans pouvoir, on ne peut rien faire, ni du bien, ni du mal, mais le fait d'avoir un plus grand pouvoir sur d'autres peuples ou sur la nature n'est pas un permis libre, ce n'est pas une carte blanche pour subjuguer ces choses-là, pour les dévaster, c'est plutôt une responsabilité morale. Donc l'homme va démontrer maintenant sa supériorité sur la nature de par son attitude responsable envers la nature, par son respect de la nature. On peut faire l'analogie suivante. Dieu est plus puissant que nous deux. Donc le Tout-Puissant, c'est un des noms de Dieu, n'est-ce pas? Il peut faire ce qu'il veut. Donc, en particulier, si Dieu voulait nous écraser, il pourrait le faire. C'est-à-dire, si Dieu décidait de nous écraser tous, qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça? Vous êtes impuissant devant Dieu. Alors, quelle chance, si vous voulez, que Dieu nous aime aussi, ok? Parce qu'à ce moment-là, il utilise de son pouvoir sur nous pour notre bien, plutôt que pour célébrer sa supériorité, n'est-ce pas? Alors, on peut faire cette analogie de la même façon que Dieu traite avec nous, que Dieu a un pouvoir sur nous, mais il utilise ce pouvoir pour notre bien, au lieu de nous écraser, nous dominer, de la même façon, le fait que nous ayons une supériorité, un pouvoir sur les choses naturelles, nous devons jouir de ce pouvoir de façon responsable en montrant justement, en utilisant ce pouvoir pour le bien de tout le système et non simplement pour la dominer, n'est-ce pas? Donc, ça c'est grosso modo, enfin, le point de vue Baha'i, qui est quand même assez nouveau. Et moi j'irais même jusqu'à dire, mais je ne veux pas entrer dans les grosses discussions dessus, que ce point de vue est unique dans la forme Baha'i. Pour la raison suivante. D'abord, les fondamentalistes religieuses, que ce soit des musulmans ou des chrétiens, mais prenons les chrétiens parce que c'est plutôt à notre porte, ils n'ont aucun respect pour la nature. Parce que dans la Bible, Dieu dit à Adam et Ève, il me dit, mais allez, multipliez-vous, subjuguez la nature. Enfin, Dieu donne l'ordre, enfin, quand ils sont expulsés du paradis, d'aller subjuguer la nature. Et le mouvement, par exemple, écologiste et tout ça, est complètement à émaner des milieux non religieux de notre société. C'est-à-dire, les plus religieux au sens fondamentaliste sont les moins écologistes dans leur point de vue. Et moi, j'ai parlé avec des intégristes religieux là-dessus. Vous ne pouvez pas croire, n'est-ce pas? Vous pouvez croire à quel point. Il me dit, mais voilà, Si on continue à pêcher la baleine, finalement, on va exterminer les baleines. Mais ça n'a pas d'importance. Dieu va faire d'autres baleines, n'est-ce pas? En fait, c'est-à-dire que Dieu est tout-puissant. C'est des gens d'abord qui croient déjà que l'évolution c'est une blague, que l'histoire humaine a commencé il y a 6000 ans avec Adam et Ève et tout ça. Donc ils croient déjà dans des mythes non scientifiques comme base. Donc, bref, ils sont complètement indifférents à ces choses-là. Ils sont complètement indifférents. Je me souviens d'un homme qui était ami de notre famille, un homme très réussi dans les affaires et qui était un pilier de l'église, un intégriste religieux français, c'est Purdy, Milburn Purdy. Okay. Et je me souviens, la première fois, il y a, avant que vous soyez tous nés sans doute, il y avait une grosse crise pétrolière, n'est-ce pas? C'est la première fois, c'est dans les années 60 qu'on avait la première grosse crise pétrolière aux États-Unis. Et une des raisons, en fait, de ravage, parce que, vous savez, il y a trentaine ou quarantaine d'années, enfin, dans, je m'en souviens, les États-Unis est un pays exportateur de pétrole. OK? Il y a moins d'une génération, le Texas et tout ça, l'Oklahoma, ont exporté le pétrole. Donc on avait assez de pétrole pour tous les besoins américains et on exportait le pétrole. Et maintenant, enfin, j'ai vu des statistiques dernièrement, non seulement en quantité absolue, mais en proportion, par tête d'habitants, par exemple, les États-Unis utilisent quelque chose comme 1000 fois plus de pétrole que tout autre pays du monde, y compris le Canada, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'utilisation du pétrole, c'est incroyable, n'est-ce pas, en fait. Donc, ils utilisent ça comme s'il n'y a pas de limite. Et dans le temps, le gouvernement américain a accordé ce qu'on appelle l'Oil Depletion Allowance. Ils payaient, ils indemnifiaient, et qu'est-ce qu'on dit, comment est-ce qu'on dit? Indemnisaient. Les compagnies pétrolières, parce qu'ils disent, vous exportez une ressource qui va en décroissance. Donc, votre source de revenus va finalement diminuer. Donc, ils recevaient des subventions de l'État. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais jusqu'à assez récemment, non seulement les compagnies pétrolières font un argent fou, mais ils recevaient des subventions, littéralement, et au nom de ce qu'on appelle... et j'ai dit, mais c'est le contraire, ils devraient payer pour avoir le privilège d'exploiter à eux seuls une ressource qui appartient à toute l'humanité. Et j'ai dit, c'est juste le contraire. J'ai dit, mais c'est complètement dingue. Alors... mais ce type, donc je suis entré un peu en compagnie, il dit, mais non, parce que si on ne donne pas cette subvention, ils n'ont pas d'argent pour faire des explorations, pour trouver de nouveaux pétroles. J'ai dit, mais écoute, tôt ou tard, ça doit finir, n'est-ce pas? J'ai dit, parce que si tout atome de la Terre était fait de pétrole, avec tôt ou tard, ça va être limité. Autrement dit, la quantité totale de pétrole exploitable sur la Terre est finie et limitée. C'est absolument limité. Je dis, mais non. Il dit, Dieu peut faire d'autres pétroles. Je vous jure, c'est un type qui était millionnaire, qui était exécutif dans une grande compagnie américaine. Et ça, c'était le niveau de sa civilisation. Dieu peut faire d'autres pétroles, n'est-ce pas? Et j'ai dit, mais écoutez, on sait comment le pétrole se fait. Ça se fait par le soleil et tout ça. J'ai parlé des dinosaures et tout ça. Et que l'énergie qui s'est emmagasinée dans les organismes et qui est des moments, etc. J'ai dit, le soleil est limité. Tôt ou tard, le soleil va bouler. Enfin, là, j'étais vraiment entré dans la métaphysique pour le convaincre. Mais si Dieu veut que le soleil va continuer, n'est-ce pas? Dieu peut faire d'autres... mais c'est vraiment, enfin, je vous prie de croire qu'il y a des gens De nos jours, un autre exemple, encore un exemple parce que c'est vraiment intéressant. Dans l'administration du président Reagan, il avait un nombre non négligeable d'intégristes religieux qui détenaient des portfolios dans le cabinet. Il avait un type, James Watt, qui était ministère qu'est-ce qu'on dit, enfin, l'équivalent des mines, des ressources naturelles, ok, ministère des ressources naturelles, je ne connais pas le nom exact aux États-Unis. Et c'était un intégriste religieux. Et c'est à ce moment-là que le mouvement écologiste commençait à surgir, n'est-ce pas? Il avait les questions, par exemple, de ravage des forêts aux États-Unis, parce que lui, il avait même proposé de dénationaliser des forêts pour permettre des compagnies d'exploiter les arbres, enfin, des arbres qui étaient vieilles de 1000 ans, même 2000 ans, n'est-ce pas? Absolument irremplaçable. Qu'un arbre soit vieille de 1000 ans ou de 100 ans, ben, qu'est-ce que ça fait? C'est du bois, en fait, etc. Mais vraiment, c'était... Et évidemment, puisque l'origine du mouvement écologiste était non religieux, c'était des gauchistes, c'était des communistes, etc., qui donnait plus d'importance aux arbres qu'aux emplois que ça pouvait donner aux compagnies, etc. En fait, c'était vraiment ce discours-là. Et puis, mais aussi, il avait la croyance, évidemment, que bientôt Jésus va revenir. Et puis, il a même fait me dire, quand on parlait de strip mining, je ne sais pas comment dire ça en français, où on fait de minage de surface, n'est-ce pas, au lieu de creuser des puits souterrains, il y a des éléments, des minéraux qui sont près de la surface, alors on mine simplement la surface, enfin qui ravage complètement la terre, n'est-ce pas, enfin, ça crée une sorte de désert, n'est-ce pas. Ça s'appelle en anglais strip mining. Alors là, effectivement, les écologistes, ils ont sorti des scientifiques qui ont dit, mais si vous continuez à faire ça, on va perdre la possibilité de se nourrir, n'est-ce pas? Ça va ruiner les terres à tel point qu'on ne va pas se nourrir. Alors, Watt avait dit, mais de toute façon, Jésus va bientôt revenir, et ça serait le royaume de Dieu sur la terre. Et nous avons beaucoup de strip mining à faire avant que Jésus revienne. Mais ça, c'était un type enfin, qui dirigeait, qui avait un portfolio responsable. Donc, pour des raisons évidentes, sociales, donc le mouvement écologique a plutôt été anti-religieux dans ce sens-là, ou disons, aux religions établies, n'est-ce pas? Et pour cette raison-là, le mouvement écologiste n'a pas pour la plupart des bases spirituelles. Ce sont des bases naturalistes, voire humanitaires, mais pas spirituelles vraiment. Et donc, les défendeurs des droits des animaux et tout ça, c'est-à-dire on revient en quelque sorte à la vision tribale. On revient en quelque sorte dans le mouvement écologiste à une vision tribale, que l'homme fait partie de la nature, etc., que l'homme, il respecte la nature, mais, moi, parce que j'ai donné beaucoup de conférences, et quand j'ai dit, je parle que l'homme est au-dessus de la nature, les écologistes, ils résistent à cela, ils disent, non, mais si on admet ça, eh bien, ça veut dire que l'homme a le droit de ravager la nature et tout ça. J'ai dit, non, ben, dans la discussion que j'ai faite, que supériorité n'égale pas pouvoir, mais compassion, responsabilité, et tout ça. Mais pour eux, le pouvoir a été tellement abusé dans le passé que la plupart des écologistes disent que la seule façon de bien gérer la nature, c'est d'enlever à l'homme le pouvoir de faire ça, n'est-ce pas, par des contraintes légales et tout, et tout, et tout. Donc, ce n'est pas un point de vue équilibré, et c'est pourquoi je dis que je crois que la foi bahaï, le point de vue de la foi bahaï, C'est-à-dire qu'il dit que l'homme est supérieur à la nature, mais cette supériorité se reflète dans la responsabilité et non dans le pouvoir, est, je pense, assez unique. En tout cas, c'est tout ce que je veux dire, et puis nous pouvons discuter.